Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Ce vendredi 13 décembre, des milliers de personnes à la mosquée des Omeyyades à Damas. Premier vendredi depuis la chute du régime Assad, jour de grande prière et le chef de la coalition rebelle est attendu sur place. Parmi des habitants qui passent leur journée à chercher des proches disparus, à parcourir les hôpitaux, à assaillir de questions d'anciens prisonniers complètement hagards, voire mutiques à cause des tortures qu'ils ont subies.
C'est une photo de mon fils. Il a disparu depuis 2017. Que Dieu maudisse Assad et les siens. Nos enfants n'ont rien fait de mal. C'est la photo de mon fils Imad.
Reportage de nos envoyés spéciaux à Damas et nous appellerons notre envoyé spécial dans nos prochains journaux. Nous irons aussi en Géorgie où la détermination des manifestations est toujours aussi grande malgré la répression. La question du rapprochement ou non avec l'Union européenne ou au contraire d'une proximité toujours plus grande avec la Russie comme le veut le pouvoir, cette question est dans tous les esprits.
Elle a divisé des familles, parfois des couples, et c'est évidemment une situation compliquée qui atteint tout le monde. Chacun dans ce pays est affecté. Mais moi, je suis convaincue que j'ai fait le bon choix, parce que je me tiens aux côtés de la Géorgie libre.
Et pour cette Géorgie libre dont parle cette habitante, des milliers de personnes manifestent chaque soir. La tension est de plus en plus grande à l'approche de la présidentielle. Un scrutin indirect prévu demain qui devrait voir arriver au pouvoir un fidèle du parti majoritaire pro-russe, Mikhail Kavelashvili, connu pour ses outrances, ses obscénités contre les opposants ou encore contre les personnes LGBT. Vous pourrez entendre dans quelques minutes l'actuelle présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, au micro de notre envoyé spécial et de notre correspondant à Tbilissi. Elle reproche à l'Europe de ne pas en faire assez. Et puis on attend encore et encore en France la nomination d'un Premier ministre. Emmanuel Macron joue avec le temps et avec les nerfs. Cette fois, l'Élysée promet que le nom sera communiqué dans la prochaine demi-heure. Et si c'est le cas, nous y reviendrons dans une édition spéciale juste après le journal de midi, temps universel. Voilà pour le programme. Bienvenue. Des sanctions contre plusieurs responsables de Géorgie, 20 personnes qui sapent la démocratie selon Washington et qui ne peuvent plus bénéficier d'un visa d'entrée aux États-Unis, des ministres, des parlementaires ou encore des responsables des forces de l'ordre et de la sécurité. L'Union européenne, elle aussi, envisage des mesures contre un pouvoir de plus en plus autoritaire, accusé d'avoir manipulé les dernières élections législatives et qui, sauf surprise, devrait aussi prendre la présidence demain à l'issue d'un suffrage indirect. Tout ceci ajouté à la décision du gouvernement de reporter le rapprochement avec l'Union européenne a déclenché un mouvement de contestation inédit. Chaque soir, des milliers de personnes se réunissent, malgré l'absence de leader, malgré la répression surtout, à Tbilissi et dans une quarantaine de villes de Géorgie, y compris dans une localité un peu particulière, à Gori, la ville de naissance de Staline. Notre envoyé spécial, Anissa El-Jabri, s'y est rendu. Là-bas, le maire est membre du parti au pouvoir, mais l'opposition a remporté plus de la moitié des voix aux dernières élections. Et pourtant, il reste difficile de protester.
Le centre-ville de Gori, c'est avenue Staline, le musée Staline. En pleine saison touristique, on y croise des voitures immatriculées en Russie, des groupes de touristes chinois. Les habitants, même les plus jeunes, n'hésitent pas à parler russe ici. Pourtant, comme ailleurs en Géorgie, sous la surface paisible, la crise politique agite et polarise. Jana Adiashvili, 31 ans.
Elle a divisé des familles, parfois des couples, et c'est évidemment une situation compliquée qui atteint tout le monde. Chacun dans ce pays est affecté. Mais moi, je suis convaincue que j'ai fait le bon choix, parce que je me tiens aux côtés de la Géorgie libre.
À Tbilissi, dans une grande ville côtière du pays, des habitants ont remplacé les décorations du sapin de Noël de la mairie par des photos de manifestants frappés au visage tuméfié. À Gori, l'idée a vite fait long feu.
Il y a trop de provocateurs. Ils auraient très bien pu faire brûler l'arbre et faire croire que c'était nous, les activistes.
Otar Virikashvili Djvili est un activiste de 39 ans. Il est de tous les rassemblements à Gori, même les plus minuscules, dans une atmosphère très pesante.
Récemment, lors d'une manifestation, avec pourtant très peu de monde, on pouvait voir à peine 15 jeunes debout. On a compté 16 voitures de police et des services spéciaux de sécurité autour. Leurs passagers n'ont cessé de filmer et photographier tout le monde. On a même plaisanté avec notre caméraman qui filmait la manifestation, en lui disant que les forces de l'ordre avaient sans doute beaucoup plus d'images que lui.
Aujourd'hui, certains habitants de la ville préfèrent se faire discrets pour aller manifester, prennent leur voiture pour le centre de la capitale et se sentir entourés par la foule. Anissa El-Jabri, Gori, RFI.
Mobilisation toujours très importante à la veille d'une élection présidentielle sans grand suspense. À l'issue du vote au suffrage indirect, comme l'a voulu le parti au pouvoir, c'est Mikhaïl Kavelashvili qui devrait être choisi comme président. Carlota Morteo, le profil de cet homme intrigue. C'est un ancien footballeur qui a connu une carrière internationale.
Oui, 46 sélections, 9 buts en équipe nationale, sacré 3 fois champion de Géorgie avec le Dynamo Tbilissi. Mikhaïl Kavelashvili, 53 ans, est considéré dans son pays comme un des attaquants les plus talentueux de sa génération. Il est passé par Manchester City, il a fait carrière dans des clubs suisses avant de retirer ses crampons en 2007 et en 2015 de briguer la présidence de la Fédération Géorgienne de Football, mais faute de diplôme suffisant, il n'a pas fait d'études supérieures, il est écarté de ce poste et c'est alors qu'il bascule en politique. En 2016, il devient député pour le Rêve Géorgien, le parti nationaliste populiste fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili, qui a fait fortune en Russie et qui est considéré comme le véritable homme fort du pays. Ce serait lui qui aurait choisi Mikhaïl Kavelashvili pour la présidence. Pourquoi ? Élément de réponse avec Tornike Gordadze, ex-ministre de l'intégration européenne, aujourd'hui chercheur à l'Institut Jacques Delors et au sein du think tank géorgien Gnomonwise.
C'est une pratique assez répandue. Le rêve géorgien utilise beaucoup dans sa propagande le sport. Parmi les députés du rêve géorgien, nous avons des haltérophiles, des rugbymen, des joueurs de basket, plusieurs footballeurs, des lutteurs, des judokas, etc. Donc c'est un parti populiste qui capitalise beaucoup sur le renommé des sportifs géorgiens. Et Kavelashvili fait partie de cette stratégie. Il représente l'aile la plus radicale, on va dire, du rêve géorgien, c'est-à-dire un groupe de députés du rêve géorgien qui étaient un petit peu les avant-coureurs de la stratégie anti-occidentale et anti-européenne du rêve géorgien, qui reprend le narratif russe sur la menace LGBT, sur l'Europe et les États-Unis ennemis des traditions géorgiennes, également les Occidentaux étant promoteurs de la guerre en Ukraine. Il fait partie de cette mouvance.
Et grâce à lui, grâce à Mikhaïl Kavelashvili, la formation au pouvoir devrait donc contrôler à partir de demain la dernière institution qui lui échappait encore, la présidence.
Oui, en fait, le rêve géorgien a fait modifier la constitution en 2017 pour que le président ne soit plus élu au suffrage universel direct, mais nommé par une commission électorale qui, en l'occurrence, l'aurait acquise. L'intérêt pour le parti au pouvoir, c'est qu'il s'assure une personnalité fidèle, contrairement à la présidente actuelle Salomé Zourabichvili, qui est devenue la porte-voix des manifestants pro-européens. Salomé Zourabichvili qui exige en vain l'organisation de nouvelles élections législatives, estimant que le scrutin du 26 octobre a été entaché de fraude. Et donc, parce qu'elle considère que le Parlement et le gouvernement sont illégitimes, elle refuse de quitter le palais présidentiel à la fin de son mandat, fin décembre, ce que n'a pas manqué de dénoncer celui qui doit la remplacer, Mikhaïl Kavelashvili donc.
La présidente actuelle a ouvertement insulté et méprisé notre document le plus important, la constitution de la Géorgie. En conséquence, notre société s'est divisée. La radicalisation et la polarisation sont par ailleurs alimentées par nos soi-disant amis, des pays malveillants qui contribuent à exacerber ce processus.
Référence à peine voilée à l'Union européenne et aux États-Unis qui sont régulièrement accusés d'alimenter les contestations.
La Géorgie va-t-elle se retrouver alors avec deux présidents ?
Alors c'est très difficile de savoir comment ce bras de fer va tourner, c'est une situation inédite. Rappelons juste que le président en Géorgie a une fonction essentiellement symbolique, médiatique, il a peu de pouvoir, mais il a une prérogative qui pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir des manifestations. Imaginons que le gouvernement décide de décréter l'état d'urgence pour imposer un couvre-feu par exemple, il lui faut absolument la signature du président, ce serait un moyen moyen légal de faire taire la contestation dans les rues.
Carlota Morteo, vous mentionniez la présidente actuelle de Géorgie. Eh bien, je vous propose de l'écouter. Salomé Zourabichvili, pro-européenne, elle répond à notre envoyé spécial dont vous avez entendu le reportage tout à l'heure et à notre correspondant à Tbilissi.
Bonjour Madame la Présidente, nous apprenons, c'est peut-être un détail mais il a peut-être son importance, que le chauffage a été coupé. Est-ce que c'est vrai et pour vous, qu'est-ce que ça dit du moment politique dans lequel nous nous trouvons?
C'est un petit peu surfait parce que le chauffage ne fonctionne pas, simplement personne ne vient le faire réparer, donc on nous laisse danser dans la partie réception, donc c'est probablement pour limiter un petit peu les réceptions, mais c'est surtout la non-réparation, c'est la passivité, et puis devant le palais on me met de plus en plus près le village de Noël qui je pense ne fonctionnera pas cette année, mais il est quand même construit.
Pour prévenir les manifestations?
Oui, pour faire un petit barrage entre moi et la population qui pourrait venir.
Nous avons l'impression que dans votre lecture de la séquence actuelle avec cette élection parlementaire du 26 octobre que vous avez dénoncée comme illégitime, et vous n'êtes pas la seule, on est dans une sorte de vide juridique. Quelle est votre lecture juridique constitutionnelle de la séquence dans laquelle on se trouve?
La séquence a commencé donc évidemment avec les élections qui ont été de toute évidence l'objet d'une opération spéciale très sophistiquée qui dépasse très largement tout ce qu'on a pu connaître ici comme fraude partielle et ponctuelle, je dirais. Et quand on regarde ça sur fond de ce qui s'est passé en Roumanie ensuite ou de ce qui s'est passé en Moldavie avant, on comprend qu'il y a un plan d'ensemble de la Russie, qui est l'intervention électorale, je dirais, au lieu de l'intervention militaire, c'est à moindre coût, et ce sont des domaines dans lesquels la Russie s'est perfectionnée ces dernières années, cette guerre hybride, la propagande, et on a vu la propagande ici à l'œuvre, avant même, bien avant les élections, avec ce thème de la guerre, qui est le même que celui qui était utilisé en Russie, et puis tous les autres thèmes, LGBT, etc., tout ça, il y a un ensemble qui est une grande opération, qui a pris tout le monde au dépourvu, parce qu'après les manifestations du printemps, qui avait été extrêmement massive, et celle de l'année d'avant, le mécontentement général vis-à-vis du régime et d'un régime qui se prolonge depuis maintenant 12 ans, 13 ans, tout le monde était persuadé que ces élections ne pouvaient pas être gagnées par le rêve géorgien. Et donc tout le monde a été pris très au dépourvu et ça a été véritablement un choc. Donc on est dans un système complètement hors constitution, en quelque sorte, et vous avez raison, une forme de vide juridique dans laquelle je reste la seule institution, d'abord, en général, la seule institution indépendante, parce que les autres, une par une, ont été prises en main par le parti unique, et non seulement la seule institution indépendante, mais la seule institution légitime, puisque mon élection relève du suffrage universel, et donc je ne suis pas dépendante du Parlement, ce qui sera le cas du président qui a été désigné et qu'il va l'élire demain.
Est-ce qu'on peut dire que ça vous oblige à sortir de la constitutionnalité vous-même?
Non, moi je suis légitime. Mon mandat d'après la Constitution se poursuit, il n'a pas une date précise, il se poursuit aussi longtemps que le nouveau président n'a pas été inauguré. Si le nouveau président n'est pas légitime, il ne peut pas être inauguré, et donc moi je reste de facto jusqu'au moment où se tient des élections, ce qui est la demande de la population, se tient à nouveau les élections, et les élections à ce moment-là peuvent élire légitimement un nouveau président auquel je céderai avec bonheur la place.
Comment vous, vous envisagez de peser dans cette période qui va s'ouvrir demain après la désignation par les grands électeurs? Est-ce que concrètement, de toute façon, vous restez dans les murs du palais présidentiel? Est-ce que vous envisagez peut-être aussi, par exemple, ce 29 décembre, jour de la passation de pouvoir, d'appeler à une journée de grande mobilisation?
Je ne vais pas vous livrer tous mes plans à l'avance. Ma position, c'est que j'y suis, j'y reste, en termes de légitimité. Et ça, c'est une légitimité qui m'est en outre reconnue par la population. Si j'étais la seule à décréter, hier, les partis politiques participants aux dernières élections ont eux-mêmes eu une déclaration commune, disant qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du Parlement et pas la légitimité de l'élection de demain. et ne reconnaissait que ma seule légitimité. Donc c'est la fonction que je vais continuer à incarner, c'est la légitimité présidentielle et la continuité de l'État, parce que ça c'est très important, y compris dans les relations extérieures, puisque personne ou pratiquement personne, sauf les Hongrois, ne traite réellement avec ce gouvernement. Et puis le reste, on verra. Est-ce que c'est dans les murs? Est-ce que c'est pas dans les murs? Est-ce que j'appelle ou j'appelle pas une manifestation? Ça, ce sont les formes de la protestation qui dépendront beaucoup de comment est-ce que les événements vont évoluer dans les jours qui viennent, parce que ça évolue très vite.
Est-ce que vous considérez que le risque de dérapage est réel? Est-ce qu'on en est au point où vous imaginez possible un scénario où le pouvoir en arriverait à faire tirer sur la foule?
Alors, il y a eu une déclaration du ministère de la Sécurité il y a quelques jours, dans laquelle ils ont à nouveau menacé et mis en garde et indiqué que d'ici 2-3 jours, il pourrait y avoir 2-3 morts. C'est très surprenant comme type de déclaration. Je pense que c'est aussi l'intimidation psychologique. Ce que je sais, c'est que les manifestations, elles sont extrêmement pacifiques. Il n'y a personne, ni d'armée de quoi que ce soit, et maintenant même pas c'est la pyrotechnique avec laquelle les jeunes s'étaient un peu amusés, et peut-être que c'est pas mauvais que ça ne soit pas sur le terrain, mais personne n'est armé réellement. Il y a eu un incident de quelqu'un qui avait un pistolet, qui était un garde d'une bande un peu criminelle et qui a été mis à l'extérieur de la... Ils l'ont sorti de la manifestation. Donc il y a une très grande conscience au sein des manifestants de rester très pacifique. Vous remarquerez, comme vous êtes sur place, qu'il n'y a pas une vitrine qui a été endommagée, il n'y a pas de vitrine même protégée, il n'y a pas de voiture qui a été endommagée, et les gens vont prendre un café au cours de la manifestation, reviennent. C'est une autre forme de manifestation, mais on ne peut rien éliminer. Il est clair qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, le pouvoir, même s'il y a aussi des signes à l'intérieur de faiblesse qu'on ne perçoit évidemment qu'à distance parce qu'on n'a pas des informations directes, mais c'est une petite ville, les ragots circulent et il semblerait qu'il y ait quelques divergences au sein même de l'équipe au pouvoir.
En évoquant la question des rumeurs, Madame la Présidente, il y a aussi une rumeur de proclamation potentielle de la loi martiale. Est-ce que vous considérez que c'est aussi un scénario qui doit être considéré, qui est sur la table?
Ça fait sans doute partie de leur façon qu'ils pourraient envisager pour terminer le mouvement s'ils n'arrivent pas à le régler d'une autre façon. J'ai comme vous entendu des rumeurs et l'idée que justement ils ont pris le président le plus docile possible pour s'assurer qu'il ne s'opposerait pas à l'adoption de la loi martiale. Mais ça sera inconstitutionnel parce que le président sera inconstitutionnel, le Parlement aussi, et donc tout ça, ça sera encore une étape et encore un pas dans l'inconstitutionnalité totale.
Il y a un tiers environ, selon les estimations en tout cas qui sont à notre disposition, un tiers environ des électeurs en Géorgie qui ont voté rêve géorgien. Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs-là?
Qu'ils ont été trompés. Ils ont été trompés comme moi, puisque moi aussi j'ai été la candidate du rêve géorgien au départ, comme candidate présidentielle, et j'ai été candidate seulement et uniquement parce que j'étais persuadée que j'allais servir un parti, un gouvernement, pas un parti puisque je ne sers pas de parti, mais le gouvernement et l'orientation du pays inscrite dans la Constitution, qui était l'orientation euro-atlantique, que servait ce gouvernement jusque-là, depuis son arrivée au pouvoir en 2012 jusqu'au moment où moi j'ai été élu en 2018. Et pendant encore quelques années, ça a été le cas, même si un début de virage a été pris au moment de l'accord Charles Michel, où ils l'ont résilié. Mais tous ces électeurs ont voté pour le rêve géorgien parce qu'ils voulaient l'Europe. Je n'en ai aucun doute. Y compris dans la dernière élection, où les électeurs du rêve géorgien dont on n'arrive pas à savoir exactement combien ils étaient à cause de cette espèce d'immense fraude. Mais je suis persuadé que ceux qui ont voté pour le rêve géorgien ont voté pour deux choses. L'un, c'était pour l'Europe, mais aussi pour une démarche plus pacifique, éviter la confrontation avec la Russie. C'était l'effet de la propagande. Mais je suis persuadé que, je ne sais pas combien, mais beaucoup des électeurs du rêve géorgien, en ayant entendu la décision du Premier ministre et en constatant maintenant que la voix du rêve géorgien, elle est très clairement, elle n'est plus masquée, mais elle est très clairement vers la Russie, je pense que beaucoup d'entre eux veulent continuer à aller vers l'Europe, d'où le langage un peu ambivalent qu'adopte le Premier ministre ces derniers jours, probablement pour garder leur petit précaré solidement, mais je pense que tout le monde a compris.
On entend ici, chez les protestataires, aussi beaucoup d'attentes. On juge parfois que l'Union européenne fait trop peu, trop lentement dans cette crise. Est-ce que vous aussi, vous jugez d'une manière générale que les Européens sont trop timides ?
Oui. Oui.
Qu'est-ce que vous attendiez ?
Je sais que la question des sanctions est très compliquée. Elle est compliquée par la Hongrie. Seulement la Hongrie, par exemple, n'attendant pas les 27, le lendemain de ces élections, est venue féliciter et est venue reconnaître le gouvernement issu des élections. Je pense que les 26 autres peuvent prendre la décision inverse, qui est de dire nous ne reconnaissons pas les élections, nous ne reconnaissons pas la légitimité. Ça, ce sont des décisions politiques qui n'ont pas besoin du consensus que demandent les sanctions. Par ailleurs, il y a des possibilités de sanctions individuelles. Il y a des pays qui, individuellement, ont coupé leurs programmes gouvernementaux. Donc je pense qu'il y a un mélange de mesures individuelles et de mesures proprement européennes. Ce qui n'est pas acceptable, c'est l'erreur, entre guillemets, qu'a commise le représentant de l'Union européenne ici, qui a consisté à prendre une photo avec la ministre des Affaires étrangères, ce qui lui a été vertement reproché ici comme ailleurs, je crois.
Dernière question, en quoi est-ce que les sanctions pourraient aider ce mouvement, cet important, très important segment de la population qui veut l'Europe, qui aspire à l'Europe et depuis très longtemps, parce qu'après tout, peut-être que c'est la bonne nouvelle, mais seuls les Géorgiens peuvent, par leur mobilisation, sauver la Géorgie. En quoi les sanctions peuvent aider ?
C'est de se voir reconnaître. Je crois que ça a un caractère. Les sanctions, aujourd'hui, elles auraient peut-être pu intervenir avant, être plus ciblées. C'est surtout les sanctions américaines ciblées qui manquent un petit peu. Mais c'est surtout pour la population le sentiment d'être épaulé, d'être connu, d'être entendu, qui lui donne, parce que tout le monde est bien convaincu ici, et l'expérience historique de la Géorgie est qu'on fait ça tout seul, et que la résilience géorgienne, elle n'a jamais compté sur autrui.
Salomé Zourabichvili, présidente de Géorgie, au micro de notre envoyé spécial Anissa El-Jabri et de notre correspondant à Tbilissi, Régis Janté. Cet entretien est à retrouver évidemment sur notre site internet rfi.fr.
RFI, l'Europe à midi.
On va revenir maintenant sur l'un des sujets qui a beaucoup occupé la presse européenne cette semaine. C'est l'accueil des exilés syriens, revus après la chute du régime de Bachar el-Assad. Dès le lendemain, plusieurs pays ont annoncé suspendre les procédures de demande d'asile et certains, comme l'Autriche, sont même allés plus loin en disant réfléchir au renvoi de ceux qui ont déjà le statut de réfugiés. Bonjour Birgit Holzer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Tagesspiegel. Merci d'être avec nous. Votre pays, l'Allemagne, a été l'un des premiers à réagir, à annoncer donc une suspension de ses procédures d'asile. Pourquoi si vite ?
C'est une question qui se pose aussi en Allemagne, effectivement. Après, l'office qui examine effectivement les demandes d'asile a dit qu'il y a aussi des raisons juridiques. Donc, dès qu'une situation dans un pays change, ils ont d'abord obligé de réévaluer cette situation. Donc, il y a certainement toute la discussion politiques, mais il y a aussi ces questions juridiques, sachant qu'il s'agit quand même de 47 000 personnes à peu près qui ont en ce moment des demandes d'asile en Allemagne et donc n'auront pas de réponse tout de suite en tout cas. Les Syriens sont le deuxième groupe après les Ukrainiens de personnes qui demandent l'asile en Allemagne encore.
Et les Syriens sont, enfin l'Allemagne, pardon, est le pays qui accueille le plus de Syriens en Europe. Il y a eu parfois des polémiques instrumentalisées par certains partis politiques. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça provoque encore des discussions?
Absolument. En fait, le régime de Bachar al-Assad venait de tomber et déjà il y a eu de premières voix qui se levaient, qui disaient effectivement maintenant il faut réfléchir si on ne pourrait pas demander aux Syriens de rentrer chez eux. C'est surtout de la partie, certaines voix du parti conservateur CDU-CSU qui demande ou qui propose cela. Il y a eu la proposition que on pourrait donner 1 000 euros par personne, etc. Mais bon, tout ça, c'est dans un contexte de campagne électorale, avec une AFD, une extrême droite assez forte. Donc, on voit quand même que certains dans le parti conservateur essayent de se positionner. Et il y a d'autres voix dans le même parti, et notamment dans d'autres partis, donc les sociaux-démocrates, les Verts, ceux qui sont au gouvernement aussi, qui disent c'est beaucoup trop tôt, on ne sait pas du tout comment ce pays va évoluer. Et un autre point, on a besoin de beaucoup de Syriens. Souvent, ils sont intégrés depuis des années. Les enfants vont à l'école et surtout le secteur médical a besoin de Syriens aussi. Donc, c'est aussi une question économique. Je crois qu'il y a à peu près 6 000 médecins syriens en Allemagne, qui manquerait cruellement. Et on ne pense pas que beaucoup de ceux qui sont, encore une fois, intégrés depuis des années voudraient revenir rapidement.
Et malgré ça, donc, il y a eu des discussions très rapidement après la chute de Bachar al-Assad. Il faut rappeler donc que l'Allemagne est en période de campagne électorale. Et là, cette semaine, les conservateurs de la CDU ont tenu des propos qui ont été jugés quand même parfois vraiment trop proches de ceux de l'extrême droite.
Absolument. Encore une fois, on ne peut pas oublier qu'on est en campagne et c'est une campagne courte, donc assez polarisée. Mais le gouvernement, donc la ministre de l'Intérieur, mais aussi la ministre de l'Extérieur, la ministre des Affaires étrangères, pardon, ont dit de toute façon, ce n'est pas sérieux de faire ces demandes, de faire ce que fait effectivement l'Autriche. Je travaille aussi pour des journaux en Autriche. Donc effectivement, avec une partie de l'extrême droite, au gouvernement, ont déjà pris cette décision. En Allemagne, je vois le débat, on voit la discussion, mais on ne voit pas encore vraiment de décision prise. Elle ne sera peut-être pas prise pour les raisons évoquées.
Merci Birgit Holzer, journaliste au Tagesspiegel. Il est 12h57 à Paris, où l'on connaît enfin le nom du nouveau Premier ministre, le centriste François Bayrou, et nous reviendrons sur ce choix dans une édition spéciale dans un tout petit peu plus de 10 minutes à Paris, ce soir. C'est l'élection de Miss France aussi. Un concours de Miss en 2024, ça peut paraître assez fou. Scandaleux même de juger des femmes sur leur physique. Et les choses changent, heureusement. Aux Pays-Bas, Pierre Benazet, le concours annuel s'arrête. Plus de ce temps, dit l'organisatrice elle-même.
C'en est fini des diadèmes et des écharpes Miss Nederland. La première à avoir porté ce titre, c'était en 1980. Mais ce concours de Miss Pays-Bas était en fait le successeur de Miss Hollande, initié dès 1929. Un siècle plus tard, ces concours sont plutôt critiqués par les féministes et ces critiques sont relayées par l'organisatrice de Miss Pays-Bas qui veut tourner la page, je cite, de l'énergie négative de ces dernières années. Le concours avait suscité beaucoup de remous l'an dernier avec l'élection au titre de Miss Pays-Bas de la première femme transgenre. Elle avait été la cible de nombreuses critiques et même de menaces sur les réseaux sociaux. Le concours n'est plus de son temps, il se transforme en une plateforme en ligne nommée justement Plus de ce temps. Celle qui a remporté le dernier concours en juin dernier devient la marraine de cette plateforme consacrée à la santé mentale et aux médias sociaux, à la diversité ou à l'expression personnelle. Un endroit, je cite, où les femmes peuvent s'entraider et se développer. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans un peu plus d'une minute, puis une édition spéciale consacrée à la nomination d'un nouveau Premier ministre en France, et puis à midi et demi, temps universel, Afrique Midi. Bonjour Victor Moria.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez tout à l'heure.
Et de l'affaire Barthélémy Dias au Sénégal, l'ex-candidat à la présidentielle a été déchu de son poste de maire de Dakar. Nous parlerons également de l'actualité en République démocratique du Congo avec la réponse de Patrick Muyaya à Amnesty International suite aux accusations de l'ONG de potentiels crimes de guerre à Goma. C'était en août 2023. Et puis l'invité, ce sera Paul Simon-Andy, spécialiste de l'Union africaine. Nous parlerons avec lui du grand débat qui a lieu ce soir à Addis Abeba.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. D'ici là, donc, le journal et notre édition spéciale consacrée à la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre en France, le centriste qui fait partie de la coalition du président de la République. À tout de suite.
Géopolitique. L'invasion russe de l'Ukraine, plus de 30 ans après la chute de l'Union soviétique, contribue à accélérer les transformations géopolitiques au sein de l'espace post-soviétique. Les événements récents viennent exacerber des fractures latentes, précipitant des recompositions géopolitiques en Asie centrale, dans le Caucase ou encore dans les pays baltes. Est-ce la fin de l'espace post-soviétique ? Réponse avec des spécialistes.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 18h40 TU.
RFI.